RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour à tous, et bonnes vacances.
Les meilleurs des grandes gueules cet été, en attendant bien sûr de se retrouver à la rentrée. On va passer en revue tous ces sujets qui ont fait l'actualité, qui ont provoqué bon nombre de débats et discussions avec les grandes gueules et surtout avec vous au 32-16.
Dans l'heure qui vient, on va revenir sur les bonnes discussions qui ont animé la table des GG, notamment ces discussions sur les parkings gratuits dans les hôpitaux, une fausse bonne idée. Et puis nous parlions également des accents régionaux en voie de disparition. Est-ce que c'est regrettable?
On aura aussi comme sujet de discussion l'interdiction de la vente des cigarettes pour les jeunes nés après 2008, ou encore les plats typiques français ont-ils toujours la cote. Allez, on se fait plaisir, on réécoute tout ça.
Pourquoi est-ce qu'on reprend ce dossier de l'encadrement des loyers? Parce que le gouvernement a dit non. Non, il n'y aura pas de généralisation de l'encadrement des loyers. Sur quoi se base le gouvernement? En fait, sur un rapport d'évaluation.
Oui, alors c'est un rapport qui est assez mitigé, enfin partagé on va dire, parce que à la fois, il constate ce rapport que le fait d'avoir encadré les loyers dans les villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, ça fait quand même réduire les prix des loyers, hein, un peu par obligation, mais de 2 à 4%, c'est pas non plus extraordinaire. L'effet est un peu plus marqué dans Paris. On est sur une baisse de 5% des loyers. Le problème, c'est que c'est beaucoup contourné. Plus d'un tiers des propriétaires contourneraient les règles, notamment grâce au complément de loyer qui est possible. À Paris, près d'une annonce sur deux dépasserait encore les plafonds autorisés. Donc, c'est pas vraiment un encadrement respecté. Et puis, ça a complètement réduit l'offre locative. Or, le problème dans les grandes villes et notamment dans la capitale, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres. C'est-à-dire que dès que vous avez une annonce, il y a 250 personnes qui se précipitent pour essayer d'avoir le logement. Donc ça n'a pas répondu à la question principale, c'est comment fait-on pour avoir plus d'offres par rapport à la demande. Donc Vincent Jeanbrun, qui est le ministre du logement, dit pas question de généraliser cet encadrement qui n'a pas pour l'instant véritablement démontré son efficacité. Oui. On est plus dans l'idéologie. Mm-hmm. En gros, salaud de propriétaire, vous faites du beurre sur les locataires, donc on va vous encadrer. Mais ce que demandent les locataires, c'est d'avoir l'offre. S'il y a une offre importante, en général, l'offre fait baisser le prix. C'est le principe de la loi de l'offre et de la demande.
Depuis, moi, je trouve que depuis plusieurs années, la crise du logement ne fait que s'amplifier pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait un moment qu'on dit que l'encadrement des loyers n'apporte pas plus d'offres sur le marché. Le marché de la construction est à l'arrêt. En tout cas, il est en net repli. Et dans la Fédération nationale des agences immobilières raconte aussi que le marché de l'immobilier en location est tendu. Et on nous a rajouté, pour bien faire, l'histoire du DPE. Et ça, l'histoire du DPE, elle a terminé le marché. C'est-à-dire que
sur les diagnostics énergétiques. Voilà,
le qui plafond, est un petit peu assoupli.
Voilà, oui,
qui devrait remettre d'ailleurs 700 000 logements dans le marché.
Oui, assoupli entre 3 et 5 ans. C'est juste reculé.
Attends.
Mais ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, énormément de propriétaires, d'abord, sont des salauds, puisque de toute façon, la taxe d'habitation a été retirée. On leur a quasi doublé la taxe foncière. Ensuite, on a imposé des plafonnements de loyers aux propriétaires. Ensuite, on leur a dit que si leur logement n'était pas aux normes du point de vue énergétique, ils avaient obligation dans un délai prescrit de faire les travaux. Et beaucoup de propriétaires ont peut-être des biens, des crédits, peut-être qu'ils les ont payés et peut-être qu'ils ont des petites retraites, mais ils ont toujours ce bien et ils le mettaient quand même en location. Donc on a amputé le marché de l'immobilier de ça. Et en plus de ça, on a aujourd'hui des gens qui revendent et les acquéreurs ne peuvent pas obtenir de prêt parce que l'appartement qui est pas en DPE correct doit bénéficier d'un prêt adossé au prêt initial. Imaginez le cocktail explosif qui est là. C'est-à-dire que un jeune qui dit je veux acheter cet appartement 300 000 euros, il est à ce prix-là parce que le DPE est à F ou G. Eh bien, la banque lui dit, OK, banco pour les 300 000, mais on vous rajoute 50 ou 60 000, parce que comme le DPE est en dessous, vous devez faire le chauffage, les fenêtres, machin. Et le crédit explose, c'est refusé. Donc, résultat des courses, tout ce qui a été fait comme initiative a plombé le marché.
Emmanuel.
Mais alors, ce DPE, c'est qui a lancé ce truc-là?
C'est dans le gouvernement Macron. le DPE.
Oui, mais
ça fait 8 ans, ça fait 7-8 ans le DPE.
C'est une folie.
L'obligation du DPE, c'est récent.
L'obligation technocratique communiste.
Oui, l'obligation, c'est récent.
Non, mais ça part toujours.
Il n'y a plus de liberté.
Non, mais d'accord, mais ça part toujours de bonnes intentions. L'encadrement des loyers.
Le communisme part d'une bonne intention.
Oui, on sait où il est arrivé.
L'encadrement des loyers, c'est qu'il n'y ait pas d'abus, qu'on ne profite pas effectivement du manque de logement. Oui, et le DPE, c'est pareil, ça partait d'une bonne intention.
La taxe d'habitation supprimée aussi.
Les passoires thermiques.
Mais non, mais elle est où la bonne intention? Non, on a quand même le droit, si on veut avoir un courant d'air chez soi et qu'on a une fenêtre pourrie, où est le problème?
On a le droit de garder sa
fenêtre
pourrie. On a le droit d'avoir le toit qui fuit.
J'ai des fenêtres, il faudrait peut-être les changer idéalement pour être bien calorifugé. Mais ce n'est pas du tout gênant.
Ben oui, voilà.
Enfin, il y a quand même des logements qui méritent d'être rénovés. Donc, l'idée,
c'est qu'ils sont exploités, qu'il y a des gens qui s'engraissent sur leur dos. Tout ça, c'est un problème de mentalité pourrie française.
Exactement. C'est un symptôme de la tiers mondialisation de la mentalité française. On n'aime pas les patrons. On n'aime pas les propriétaires.
L'idéologie.
On parlait de Nice tout à l'heure. Parce qu'il y a quelques propriétaires qui abusent. On dit, on va mettre une épée de Damoclès sur 100% des propriétaires. Alors qu'en réalité, c'est comme dans tout, c'est une minorité délinquante qui salit l'image de la majorité silencieuse.
C'est comme le contrôle technique. Le contrôle technique pour un ou deux véhicules, mais trois fois rien, on emmerde la terre entière tous les deux ans. Ça coûte une fortune.
C'est du
ils font bloquer les bagnoles, on peut plus travailler. Enfin,
c'est
le DPE, c'est pareil. Ça, c'est pourri, c'est à rayer immédiatement à la poubelle.
Et alors, il y a une autre chose, c'est les ZFE.
Les
centres-villes interdits. Pareil, ça part d'un bon sentiment, en disant on va exclure des centres-villes les voitures polluantes. Et puis, on s'aperçoit que c'est très discriminant.
Emmanuel, il a des gens modestes. Il a des fenêtres et des portes qui laissent passer tous les courants d'air. et tu roules en vieille bagnole, en plus, j'imagine.
Oui. Mais c'est la liberté.
Ça, c'est les châtelains qui veulent se planquer. On veut bien rouler en Porsche.
Il y a l'expression, la fameuse expression à la fin, c'est mourir en bonne santé.
Ah ben.
Bon, pour revenir, en fait,
à l'encadrement des loyers.
Mais en fait, c'est stupide. La problématique, c'est le manque d'offres. En fait, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas assez de logements. C'est sur ça qu'il faut travailler. L'encadrement des loyers, c'est encore un truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas faire de politique efficace, donc on fait des choses à l'emporte-pièce. Et ce qui me fait rire, en fait, avec cette mentalité, tous ces gens qui critiquent les gens qui réussissent, donc les propriétaires, les chefs d'entreprise, les millionnaires, tout ça, qui est-ce qui les critique? Ce sont des gens qui sont pétés de thunes. On a même un candidat putatif qui est pété de thunes, qui propose d'être un président au SMIC. C'est exactement la même hypocrisie à ce qui paraît. Donc, c'est la même hypocrisie que l'on retrouve absolument partout ça ne fait pas avancer les choses.
On a Paul qui est avec nous. Paul qui veut réagir. Il est du côté des Pyrénées-Atlantiques. Il est juriste consultant. Bonjour, Paul.
Bonjour, les grandes gueules. Bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites de l'encadrement des loyers, alors?
L'encadrement des loyers, c'est comme mettre un petit bout de sparadrap sur une gouttière qui fuit. En fait, la crise du logement, vous avez à peu près énuméré tous les critères. Pour avoir vécu ce problème-là sur la Côte Basque, parce que j'étais juriste aussi sur la Côte Basque, dans un groupe immobilier, et la crise du logement se fait, le critère principal de la crise du logement, c'est la disponibilité du logement. C'est aussi simple que ça.
Voilà.
Je vais vous donner l'exemple très simple. Là, on parle de l'encadrement des loyers. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une mesure générale sur la France, ça n'est pas possible. La condition du marché de Paris, de Nice ou de la Côte Basque n'est pas tout à fait le même. Sur la Côte Basque, c'est surtout du tourisme, de la résidence, de location saisonnière. Et il y avait un gros marché de location saisonnière. En 2021 et 2022, la communauté d'agglomération du Pays Basque, par l'intermédiaire du maire de Bayonne, Jean-René Tchégaray, a décidé de mettre en place des mesures pour limiter ces locations saisonnières, parce qu'en fait, beaucoup trop d'appartements étaient devenus complètement vides et il y a une grosse crise du logement au Pays Basque. Mais cette crise, elle a été provoquée aussi parce que le redémarrage du marché immobilier qu'on a vu à la sortie du Covid en 2021 a fait exploser le nombre de ventes. Certes, les Basques se sont retrouvés presque à la rue parce qu'ils ont même vendu, c'est pour certains, leur logement, mais ils n'ont pas réussi à trouver de point de fuite derrière parce que les prix ont complètement explosé. Et certaines agences ont fait floraison. Il y a eu un nombre incalculable de mandataires qui se sont présentés d'un coup sur des réseaux ou dans des agences au Pays Basque. Et au final, après, avec le coup de la guerre en Ukraine en 2022, paf, le marché s'est arrêté brutalement, mais la crise est restée là. Elle est toujours là. là, elle est problématique.
Donc en fait, ce qu'il faut, c'est construire tout simplement.
Ah oui.
En fait, c'est ça.
Mais il faut construire, mais le problème, c'est qu'aussi, il faut savoir pour les sites et pour les endroits, parce qu'en fait, il y a tellement de mesures en termes d'écologie qui sont des mesures purement punitives. Alors moi, le premier, pour être plutôt un bon pratiquant de la randonnée, de la montagne, moi, je suis pour justement pour qu'on fasse attention à l'environnement. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines règles qui sont trop restrictives, trop punitives, et même sur la côte, il y a des problèmes pour construire, parce que forcément, à un moment donné, ben, c'est beaucoup de quartiers historiques, c'est beaucoup de bâtiments historiques.
Bien sûr.
Donc, ce sont des règles beaucoup trop contraignantes. Le seul programme de construction qui s'est fait, et il a pris plus de 10 ans, c'était un ancien garage au centre de Saint-Jean-de-Luz qui est devenu un complexe immobilier, mais qui mélange l'hôtellerie, les commerces. Enfin, c'est un gros programme qui coûte extrêmement cher, mais au final, les rares programmes qui se font, ben, ça a été une construction anglaise qui a fait scandale puisqu'il était construit sur une décharge.
Mais d'ailleurs, Paul, il faut regarder aujourd'hui quand on scrute la conjoncture économique, le niveau de construction dans le neuf est à un plus bas niveau historique.
Exactement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dynamique sur la construction et sur le logement. Et dans les zones urbaines, c'est là où sont les gens et là où il y a le travail. Bah, c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué de se loger, de trouver un loyer qui soit accessible. Donc aujourd'hui, il faudrait déverrouiller, construire massivement, sauf que on n'y arrive
pas. À Paris, c'est compliqué, il y a
bah, bien sûr.
Mais oui. C'est de places, de foncier.
Donc quand je vous remercie d'avoir été avec nous, Paul. L'encadrement des loyers, le gouvernement dit non à la généralisation. Est-ce que l'encadrement des loyers, c'est la fausse bonne idée? Qu'est-ce que vous en dites? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. On va voir, vous dites oui, c'est la fausse bonne idée, mais c'est quand même un 60-40. Mmh. 40% de gens qui sont plutôt en faveur de l'encadrement des loyers.
Il faut qu'on retravaille en classe sur le geste scripteur. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions rédiger à nos élèves des phrases complètes, de la majuscule jusqu'au point, et qu'il faut par conséquent bannir les textes à trous. Parce qu'on sait tous qu'effectivement un élève qui a une écriture complète, tout simplement, mémorise mieux et diversifie considérablement son vocabulaire.
Il faut retrouver le geste de la main, l'écriture. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la mémoire, pour la mémorisation. Et on a tous, nous, notre génération, encore la cale de l'écriture, oui, mais ici,
pardon,
au majeur.
Et il n'a pas dit ce que tu es en train de dire, il a dit le geste scripteur.
Oui, pardon, tu arrives.
Et là, alors, est-ce que c'est un langage, un verbiage...
Neuf langues.
Neuf langues de l'éducation nationale, c'est comme ça qu'on parle, parce que... Tu n'utilises pas un ballon de foot,
Le référentiel bondissant.
Voilà, et j'ai l'impression qu'on est là-dedans, sachant que Édouard Geffray, d'ailleurs, moi j'avais trouvé très bon dans Les Grandes Gueules, parce qu'il connaît bien son domaine, il vient de l'éducation nationale, mais alors, il a peut-être aussi le langage de l'éducation nationale. Oui. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il faut que nos enfants peut-être réapprennent tout simplement là-bas, c'est-à-dire écrire, savoir rédiger des phrases complètes, de la majuscule jusqu'au point. Visiblement, on supprime le point. Maintenant, il y a le point est une option dans une phrase. Il faut, par conséquent, bannir les textes à trous. Alors, c'est quoi les textes à trous qui, visiblement, on fait travailler à nos enfants?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'ils disent il faut réapprendre... On dirait qu'on a complètement, parce que le ré, le préfixe ré, on dirait qu'on a arrêté complètement, et donc je vois pas comment ils ne pourraient pas écrire, puisqu'ils ne viennent pas tous avec des ordinateurs. À la limite, si par exemple on avait fait un grand changement où tout le monde avait un ordi et que tous les élèves étaient en train de taper, et on dit tiens, là on pourrait dire réapprendre à écrire. Là, je trouve ça étonnant qu'ils disent réapprendre. J'ai l'impression qu'ils construisent plus son image que quelque chose. Donc ma limite est là. Après, sur le fond, moi je suis plutôt d'accord sur plusieurs choses, sur le fait l'importance de l'écriture, mais même au-delà de l'écriture, même de la motricité fine. On a des enfants à l'école primaire et les professeurs des écoles le disent, qui arrivent surtout au début et qui sont des enfants doigts. C'est quoi un enfant doigt? Un enfant qui sait utiliser la tablette parce qu'on l'a mis très tôt, donc il a son doigt comme ça.
Il
fait ça, tu le mets devant une feuille, il a envie de faire glisser, même devant un livre, il veut faire glisser, et qui n'a pas fait ni pâte à modeler. Ah oui, il y a des enfants comme ça. Ben, tôt, ils n'ont jamais fait. Si, par exemple, tu ne lui proposes pas de la peinture chez toi, de la pâte à modeler, tout ce qui fait que tu vas utiliser tous tes doigts et que ça tâche et tout ça, tu laisses un peu se débrouiller, ben, la tablette, c'est un peu facile. Tu fais du coloriage, tu appuies comme ça, ça fait toute la couleur dans le cadre, tu n'as pas appris à déborder ni rien. Donc, c'est la question de la motricité fine en règle générale et l'écriture, après, en fait partie. Nous, on le voit au collège, moi, j'ai des élèves, c'est illisible. Ça veut dire que je mets un temps fou pour les lire et je leur écris graphie et tout ça. Mais ils tiennent mal leur stylo.
D'accord, mais Fatima, est-ce qu'on n'est pas de toute manière rentrer dans un monde où on n'écrira plus jamais, puisque les adultes sont devant l'ordinateur et écrivent l'ordinateur. Nous-mêmes, on n'écrit quasiment plus aujourd'hui. On frappe, etc.
Tout le temps.
Bah parce qu'on est entre les deux générations.
Y a deux choses.
Sera dans un monde peut-être où on n'écrira plus jamais de la main.
Et alors, il y a deux choses. Une fois adulte, par exemple, si toi adulte, tu me dis, Fatima, j'écris presque plus parce que je suis sur mon ordi. Tu sais écrire pour autant.
Mais parce que je suis une génération là, on a appris.
Voilà, j'ai pas d'ordinateur. Moi j'aime bien. Toi tu as le choix. Tu peux
oui,
si
mais
tu
c'est
veux
une nouvelle
écrire.
Génération.
Si, on va pas te donner, tu ne sais pas écrire.
Fatima, d'accord, mais...
Donc moi pourquoi toi tu saurais faire quelque chose et là on va élever des enfants.
Mais parce qu'à l'époque il y avait pas d'ordinateur, Fatima.
Alors mais
aujourd'hui cette nouvelle génération va grandir.
Les neurosciences, c'est pas ringard de savoir écrire et de savoir tenir un stylo, je suis désolée.
Est-ce que ça sera utile?
Les neurosciences.
Pas ringard, je n'ai pas utilisé ce terme qui est un terme péjoratif. Je dis est-ce que ça sera
utile
de savoir écrire dans le futur?
D'une part parce que les technologies peuvent être défaillantes. D'autre part, les neurosciences ont montré que même pour la mémorisation, c'était nécessaire. Regarde avec le téléphone, on a dit, regardez combien d'entre vous, vous connaissez encore les numéros de téléphone? Parce que on se fie, on a tout laissé à notre donc c'est comme un muscle.
Ça sera pareil.
C'est
l'intelligence artificielle saura qu'on n'écrira plus jamais. Mais on dictera des textes.
Je trouve ça regrettable. Moi je suis pas
pour l'homme augmenté avec un disque dur externe. Je suis pour le plus possible développer des capacités et après en tant qu'adulte tu peux choisir d'y renoncer.
Tu peux le regretter, Fatima, mais je pense que
comme professeur je vais faire mon possible de la même manière.
Attends, juste sur ça,
je vais continuer d'apprendre à oser élèves à écrire, faire une rédaction, alors que tu peux me dire, bah c'est bon, il y aura ChatGPT, ils peuvent demander à ChatGPT et ChatGPT va le faire.
Je parle de l'écriture.
Et tu vois, ça rend très très dépendant
Olivier,
quand même.
Olivier, sur l'écriture en elle-même, sur le geste, le fait d'écrire proprement, je pense que c'est un apprentissage fondamental pour l'enfant de patience, de précision,
de motricité
fine. Faire les choses bien tu peux dire, on va supprimer l'écriture. De toute façon, on n'en a plus besoin. Mais en réalité, ce n'est pas l'écriture.
C'est pas qu'on va supprimer, elle va être supprimée d'elle-même.
C'est toute l'attention portée à un geste, c'est la concentration, etc. C'est tout ça. Et moi, je prends toujours l'exemple de mes études de droit. J'ai fait 5 ans de droit. Ah ben oui, d'accord. Est-ce que je les utilise tous les jours? Évidemment que non. Mais c'est une façon dont ça m'a formé, dont mon esprit réfléchit, etc. Et tu peux dire, ouais, demain il y aura ChatGPT pour tout. Et ben, je pense qu'en réalité, la différence se fera entre ceux qui ont encore la capacité personnelle de produire un raisonnement ou d'écrire à la main, etc. Et les autres qui seront complètement,
tu écris toujours autant.
Ouais.
Et sur
j'écris à la main. Dès que je dois réfléchir, j'écris à la main.
Et sur la ponctuation, la disparition de la ponctuation, c'est une catastrophe. Parce que c'est ta pensée aussi. Moi, quand un élève fait une phrase de 10 lignes, c'est sa pensée qui est déstructurée. On ne te parle pas de vous quand vous envoyez un SMS.
Tu dis merci, tu ne mets pas le point.
SMS, on ne met pas de ponctuation, mais c'est volontaire pour ne pas être agressif. Mais là, on parle de personnes qui ont la pensée déstructurée parce que le langage, c'est ta pensée aussi.
Et aujourd'hui, au lieu de trouver le bon adjectif ou la bonne tournure de phrase, tu mets un émoji. C'est plus simple que de trouver le bon adjectif qui caractérise ta phrase ou ce que tu veux dire.
On est dans la communication.
Non, mais je me dis que si, et Olivier a peut-être pas tant, c'est peut-être l'avenir qu'on aura, mais moi je me dis que.
C'est pas, je le souhaite, mais, je pense que.
Mais l'arrivée de la télé a pas empêché le théâtre et le cinéma de continuer, donc je me dis que ça a encore de l'espoir. Mais moi ce que je vois, c'est que si demain, ChatGPT ou l'IA prend la main sur tout ce qui est éducatif et tout, eh ben c'est facile. Tu auras des générations qui vont arriver, tu en feras ce que tu veux. Ça sera docile parce qu'ils n'auront pas de propre réflexion. Ils n'auront même pas de besoin de comprendre, de pêcher sur le monde parce que tout le monde leur fera. Et donc, en fait, c'est très bien pour nos gouvernants parce qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent et tu auras de la chair à canon, tu auras de la chair à usine, tu auras ce que tu veux.
Par contre,
tu auras plus d'être humain.
Je vais donner un exemple. On fait l'oral du brevet. Oui. Et maintenant, avec l'oral du brevet, certains ont préparé sur ChatGPT. Je vais avoir une petite qui avait fait un truc sur Guernica. Elle commence et elle l'a fait sur ChatGPT. Et elle commence, elle récite, elle l'a appris par cœur. Et ça faisait illusion. Sauf à un moment, on lui dit, vous avez utilisé le terme monochrome. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle savait pas. Vous avez utilisé tel terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en vrai, c'était un langage vide. Moi, je veux qu'on habite notre langue. Ça veut dire les mots veulent dire quelque chose.
Moi, je faisais la même chose avec mes textes en allemand.
Bah ouais, mais on peut pas.
J'ai eu 12 au bac. Je suis incapable de te dire précisément ce que j'avais appris. J'avais appris par cœur mes textes.
C'est impossible.
Je te jure. J'avais appris par cœur mes textes. Je redoutais les questions parce que je comprenais rien de ce que j'ai eu du pot parce que l'examinatrice m'a pas posé de questions. l'émission. Non, mais... j'ai balancé mon texte en allemand, j'ai eu 12. Mes parents s'en sont jamais remis. Ils me pensaient, ils disaient, mais comment t'as eu 12 alors que t'étais nul?
Mais après, on voit le décalage. Moi, j'ai des élèves.
Il n'y avait pas ChatGPT.
Ils me donnent une copie. La copie, c'est très bien. Je me dis, mais dis donc, c'est pas possible. Je lui parle. Ses phrases sont déstructurées. Je dis, mais on voit.
Et quand tu leur dis de décrire, tu sens que c'est un effort, tu sens qu'il...
Ah oui, c'est très dur. Même d'avoir des phrases construites. Après, moi, ce que je vous dis, c'est pas le niveau qui baisse, c'est l'écart qui se creuse. Ouais. Ça veut dire, j'ai des élèves. Alors, graphie, pareil, j'ai une élève, elle écrit magnifiquement bien. À chaque fois, j'ai envie de prendre des photos. Je lui fais des cœurs. Je suis amoureuse de son écriture. Et d'autres, c'est illisible. Et pareil pour la pensée. Certains, bah, ça y est, j'ai envie de passer des heures à discuter avec eux. C'est structuré, c'est profond. Et d'autres, vraiment, ils ne comprennent pas les mots.
Là, tu parles des grandes gueules, là, par contre. Tu parles des grandes gueules, tu vas faire ça, c'est une grande gueule. Il y a certains qui veulent parler, puis écoute.
On a appris qu'Antoine Dierst n'avait pas lu le lit de Jean-François Copé.
Ah oui, ça, c'est pas bien.
J'aurais dû lui faire faire une petite interro.
On aurait dû faire un contrôle. Moi, je l'ai lu.
Dans tous les cas, moi, je fais vraiment partie de la génération qui a énormément, énormément
écrit. Bah oui, toi, t'as la marque. Stigmate, regardez.
J'ai toujours la cale, j'ai toujours l'os.
Tu parles. Toi, t'es un vrai mytho. Moi, je dirais rien, mais t'es un vrai mytho.
Ah ouais, qu'est-ce que t'allais dire?
Ah, rien du tout. Mais la cale, tu viens d'ailleurs.
C'est pas ça qui t'a.
Ouais, c'est exactement.
C'était l'époque où on avait même des cahiers de 200 pages. Ah bah et on arrivait en disant, et faites-moi confiance, à la fin de l'année, vous l'aurez rempli. Quoi. Oui. Quelque chose.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Et là encore, c'est passé par l'Assemblée nationale qui a adopté, c'est la première lecture, la loi qui prévoit de ne plus payer les stationnements dans les hôpitaux, mais on est quand même sous certaines conditions.
Oui, il y aura une heure ou deux heures de gratuité, mais c'est un peu le mirage de la gratuité, c'est-à-dire qu'on pense que c'est gratuit, et donc c'est formidable, personne ne paye, il y a toujours quelqu'un qui paye, alors parce que la gratuité, ça n'existe pas. Et donc, si ce n'est pas l'automobiliste qui paye pour aller consulter un médecin à l'hôpital ou aller voir quelqu'un qui est malade, eh bien c'est l'hôpital qui va payer. On sait que les hôpitaux en France sont pour la plupart déficitaires. Par exemple, le CHU de Nice, c'est 300 millions d'euros de déficit. Donc là, on va leur demander en plus de prendre en charge le parking qui est devant l'hôpital. Rappelons également que les frais de voitures personnelles et de stationnement sont prises en charge pour certains patients. C'est ce qu'on appelle les patients qui ont des maladies longue durée. Ils ont des bons transports, donc pour eux, finalement, c'est possible de payer le parking. Et puis, le problème des parkings gratuits, c'est que ça prend des places aux professionnels de santé. Les parkings sont bondés. L'infirmière ou l'infirmier qui arrive rapidement, ou le médecin qui doit donc vite intervenir, bah, il peut pas parce qu'il trouve pas de place devant l'hôpital. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rendre gratuits les parkings des hôpitaux?
32-16 pour le dire au GG, pour le dire aux grandes gueules. Qu'est-ce que vous en pensez, Abel?
Moi, j'aurais préféré que ce soit gratuit au niveau des stationnements de Paris. Mais sinon, c'est vrai que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler aussi que les financements inhérents à ces parkings sont attribués aussi en partie au fonctionnement des hôpitaux. Donc, on a des hôpitaux qui sont déficitaires sur le plan financier avec des conditions de travail qui se dégradent au quotidien et on leur enlève encore une manne financière. Donc, j'espère que derrière, il y a un projet de loi qui va être prévu pour augmenter le budget parce que là, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité et qui dit gratuité d'un côté, dit que c'est encore pour reprendre ton expression, Nicolas, qui va payer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, quelle va être la finalité? Ça va être plus de confusion et de frustration pour le personnel hospitalier.
Ça serait gratuit pour le personnel et payant après deux heures pour les visiteurs.
Oui, c'est clair, mais comme tu l'as dit, Olivier, les parkings vont se remplir. Mmh. Si vous avez, par exemple, une ambulance qui arrive et qui est bloquée parce qu'il y a trop de monde, faut quand même pouvoir anticiper ce type de situation.
En fait, c'est un effet d'aubaine, c'est deux heures gratuites dans des villes qui sont maintenant toutes payantes.
Exactement.
Laura?
Non, moi je suis pas d'accord avec Abel. On paye déjà pour que nos hôpitaux et on paye énormément pour que nos hôpitaux fonctionnent correctement. Et donc là, quand on fait des parkings payants, alors moi je suis pas pour le parking.
On paye de nouveau.
Voilà, on paye une deuxième fois et on nous dit bah oui, mais si on arrête de payer le parking, l'hôpital va s'effondrer. Non mais attends, gars, tu veux que je te montre ma feuille d'impôt de ce que je paye pour que déjà mon hôpital il fonctionne. Je suis pas pour le 100% gratuit parce que ensuite, pour l'avoir vécu, t'arrives toi avec ta petite fille pour aller aux urgences, t'as plus une place sur le parking parce que tous les gens du centre-ville se sont garés là. On pourrait imaginer un système où une batte à l'accueil, tu badges, et du coup ton parking est gratuit et il est pas envahi par les gens. Mais moi de me dire le parking, enfin moi j'ai eu ma grand-mère qui s'était fait opérer, j'avais eu je crois à peu près 100 balles sur le mois de parking pour aller rendre visite à ma grand-mère, c'est énorme. Je pense aux gens qui ont des enfants qui sont malades ou qui comme moi vont s'occuper de leur grand-mère. tu te dis, ça peut pas devenir un budget supplémentaire, sachant ce qu'on paye encore une fois. Moi, j'estime que sécurité, santé, éducation, tout ça, c'est du régalien. Et quand on sait ce qu'on paye, maintenant, c'est pas de ma faute. Si notre président préfère donner de l'argent à d'autres pays qui, par derrière, nous aident pas forcément, contrairement.
Donc c'est à eux de mieux gérer l'argent.
Enfin, je veux dire, quand on voit ce que nous on paye, j'ai pas en plus à payer l'hôpital pour qu'il fonctionne.
Charles.
De façon générale, je suis contre cette déresponsabilisation des Français où finalement tout est mis en place pour que on ne se rende pas compte du coût des choses. Et pour qu'on ait l'impression qu'on ne paye rien et tout est mis en place pour que certains ne payent rien, puisque en réalité le système français repose quand même sur les efforts d'une minorité qui porte sur leur dos l'essentiel du fardeau de l'État-providence. C'est quand même ça la réalité de ce pays. Je me souviens que ce sujet était déjà sur la table il y a quelques mois. On avait à l'époque le prix du parking payant. C'est pas non plus ça coûte pas non plus les yeux de la tête. Ça me paraît pas extravagant, effectivement, vu l'état de l'hôpital public, de ne pas forcément faire prendre en charge par l'hôpital, y compris le parking. Je pense qu'il faut
Tu es pour qu'on donne pour les visiteurs au moins une gratuité d'une heure ou deux heures ou pas?
Non, je pense qu'il faut qu'on accepte que tout coûte quelque chose. D'accord. Et que l'hôpital, ça coûte. Là, ça les coûte médicaments, ça chose. Coûte. Le médecin, ça
là,
coûte.
Là, ça coûte déjà quelque chose, Charles.
Ça coûte, mais tout le monde ne paye pas.
C'est quand même, ça, c'est un autre sujet. Ben moi, je suis pour que tout le monde paye de l'impôt. Peu importe son budget, peu importe son revenu. Tu payes un pourcentage et tu donnes ce que tu peux donner. C'est
pas le
sujet.
Mais il y a beaucoup de gens qui se débrouillent pour ne pas payer d'impôts.
Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois ce que l'on prend sur mes impôts perso, ce que l'on prend sur mon entreprise et ensuite ce que je paye en TVA et que je vois que l'hôpital se dégrade de jour en jour, que les services de l'ordre.
Laura, je comprends ton argument, sauf que le nombre de places est limité.
Bah oui.
Or, donc il faut prioriser. Et le fait de faire payer, ça permet de sélectionner, parce que on peut imaginer, et c'est ce que prévoit la loi, c'est gratuit pour le personnel. Sauf que si le personnel ne trouve pas de place, ça sert à rien.
Mais ça,
donc il faut que des places restent libres. Et pour que des places restent libres, je ne vois pas d'autre moyen que de faire payer, parce qu'on sait très bien que. Ou alors, il y a une proposition, c'est que les mairies rendre le stationnement autour des hôpitaux gratuit. Mais alors là, vous allez entendre les maires qui vont dire bah non, attendez, c'est une recette importante, etc. Vous voyez, on peut très bien imaginer qu'autour des hôpitaux, ça redevienne gratuit le stationnement.
Mais à Cannes-sur-Mer, voir un oncologue, c'est le docteur Barrière qui est à Cannes-sur-Mer, membre du collectif médical du Sud-Est. Bonjour, docteur Barrière.
Bonjour.
Beaucoup de médecins réagissent en disant non, ça va nous priver d'une manne financière. C'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai. Malheureusement, il faut savoir que il est évident que quand on va voir, quand on doit être soigné à l'hôpital ou dans des établissements privés, il faut pouvoir stationner, notamment quand on est malade ou surtout quand on va voir les patients. Ça, on le comprend, mais il faut des places. Et ce qu'on ne conçoit pas forcément, c'est que l'hôpital public n'a pas les moyens, si vous voulez, de construire ces places. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à des sous-traitants de construire ces places de parking. Donc, ça a un coût. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et faire croire qu'une gratuité va être simple à régler, c'est faux. Le problème, c'est que manifestement, tous les directions d'hôpitaux le reconnaissent. Il va y avoir un surcoût à l'hôpital si cette loi est définitivement adoptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est que ça va être... Au total, on estime que c'est probablement 400 millions d'euros sur l'ensemble des hôpitaux que ça va faire peser. C'est énorme, 400 millions d'euros. Moi, quand je vois l'hôpital de Nice, le CHU, il a déjà 300 millions de déficit. Rendez-vous compte. Donc, évidemment qu'il y a des situations où on peut comprendre la gratuité est importante. Vous avez des enfants hospitalisés, on peut avoir, évidemment, pour les parents qui vont voir leurs enfants, des situations, des soins palliatifs, pour quand on va voir, mais quand on est opéré de la hanche et qu'on reste 3 jours à la clinique ou à l'hôpital, de voir tout gratuit, je pense pas que ce soit pertinent. Il y aura pas des places suffisamment pour tout le monde. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de dire, le péage pour aller se garer à l'hôpital, il faut que ce soit gratuit. L'essence, on est déjà un pays, si vous voulez, où l'assurance maladie prend en charge le transport à un niveau plus que suffisant, je pense, par rapport aux autres pays européens notamment. Vous êtes en ALD, affection longue durée, vous ne payez pas votre voiture personnelle, ni le parking
12 millions
pour aller
d'AFD
faire votre chimiothérapie,
hein.
Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire.
12 donc, millions.
Oui, donc... Je, oui. Non, le quoi, le transport,
non, il y a 12 millions de Français qui sont en ALD.
En affection longue durée.
Donc il y a déjà des dispositifs
sont déjà pris en charge.
Prévus.
Imaginez la facture de taxi.
Oui, déjà. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais
docteur Barrière, alors dans ce cas-là, parce que moi je trouve que c'est vos arguments, c'est des arguments de bon sens, mais alors pourquoi les députés, quasiment à l'unanimité, ont voté la gratuité? On est vraiment dans la pure démagogie?
Alors, je pense...
Il y a des élections qui arrivent.
Enfin, il faut regarder combien ils étaient déjà à cette première lecture à voter. Je crois
sans
qu'ils étaient 73.
Très... Voilà, c'est vrai.
Donc sur 577. Ils n'étaient pas très nombreux.
Les déjà, autres, on ne sait pas où ils étaient.
Voilà. Donc, ben parce que ça ne les intéresse pas forcément, la première lecture, c'est toujours pareil. Bon. Oui. Donc, il faut voir qui a voté, pourquoi. Bon. Moi, je conçois que la santé, c'est un sujet qui préoccupe les gens. L'accès aux soins, ça préoccupe les gens. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que tout a un coût. Et qu'aujourd'hui, le coût de la santé est en dessous du coût réel remboursé. Et donc, le tout gratuit... arrive à la dégradation des soins. Quand vous voyez un hôpital, pour terminer, je lisais que le groupe hospitalier de Nord-Essonne disait que s'il fallait que cette loi soit passée, ça voudrait dire que pour eux, c'est 6 postes d'infirmiers en moins, parce que c'est l'hôpital qui va devoir payer aux sous-traitants privés pour pouvoir, si vous voulez, équilibrer la facture. Donc, ça veut dire qu'on va encore faire grever ceci sur les hôpitaux. On va dire l'État va compenser, mais l'État ne compense jamais à l'euro près. Jamais.
Merci, docteur Barrière, d'avoir été avec nous, oncologue à Cannes-sur-Mer. Après, on peut imaginer un système de forfait, je sais pas ça. Et puis, on va pouvoir arriver à moduler les tarifs.
C'est pas, moi, je suis
50 centimes, tu vois, les deux,
non,
trois
mais
premières
mais
heures.
Non, mais même 3, 4, 5 heures, ça ne pose pas de problème.
Moi,
tu vas faire, excuse-moi, Abel, mais tu vas faire une IRM. Bah, tu payes ton stationnement. Tu vas à un rendez-vous. Enfin, moi,
alors, ça va être compliqué parce que alors, il va falloir vérifier à l'accueil exactement l'examen
non,
que tu
mais
as.
Mais non, c'est pas.
Là,
c'est pas.
Mais
non, c'est pas.
Laura,
c'est pas compliqué. Je suis désolée. T'as quelqu'un qui est hospitalisé. Tu dois aller le voir. Enfin.
Laura,
juste à
rien
ce moment-là,
que mettre le sujet sur la
table.
Rien que le fait de mettre le sujet sur la table, c'est une hérésie. Tu parlais des 100 euros de parking que tu as mis pour ta grand-mère. Imagine demain le parking est gratuit, les 100 euros, tu les paieras d'une autre manière. Donc mieux vaut.
Je les paye déjà. En fait, ce qui
oui,
pose
mais,
problème,
mais
c'est
tu
que
les paieras les... toujours. Mais non, en fait,
qui...
tu les paieras toujours,
oui,
sauf qu'on te mentira, on te fera croire que. Attends, je finis. On te fera croire qu'il y a une gratuité et tu les paieras ailleurs. Mieux vaut que tu saches où tu mets ton argent. C'est ça aussi la responsabilité. On peut pas avancer dans une société du tout gratuit.
Gratuit,
parce que
tout
je
n'est
finis
pas
s'il
gratuit.
Te plaît. Le tout
pour
gratuit, si je finis, il faut de la justice sociale. Mais la justice sociale ne signifie pas le tout gratuit.
C'est
il faut qu'on accepte
dis.
Que les gens puissent
c'est
être responsabilisés.
Dis, là,
l'hôpital va mal et le système il fonctionnait bien. Est-ce que tu as vu des manifestations dans la rue pour dire on ne veut plus payer le parking à l'hôpital? Oui. C'est même pas une demande
non,
des Français. Il y a des élections qui arrivent. Tu le sais très bien, il y a des élections qui arrivent et c'est une fausse image de justice sociale. C'est un
autre
sujet.
C'est un autre
sujet. On peut quand même
non.
dire que c'est
personne
un sujet,
n'a manifesté pour
c'est...
demander
on paye
la
de plus...
personne n'a demandé
Laura.
Personne n'a demandé à ce
non,
que
le
je ne te dis pas
gratuit.
Je ne te dis pas le contraire, je te dis juste que moi
donc
c'est un sujet
bonne idée.
C'est moi c'est un sujet que j'ai porté enfin dont j'ai parlé avec ma famille parce qu'effectivement ça coûte. Je ne te dis le truc c'est qu'on on se fait déjà assassiner. Donc en fait tu te fais assassiner sur les impôts, tu bouffes pas. T'arrives pas à te loger, t'arrives pas à te chauffer, t'arrives pas à manger. Tes gamins, ils ont une éducation de merde. Tes flics, aujourd'hui, ils sont dans la rue. Les hôpitaux, ils sont tout le temps en grève. Donc tu te dis, attends, je paye de plus en plus pour avoir de moins en moins. Et là, on te dit...
Donc
bah
le
oui,
problème,
mais...
c'est le parking de l'hôpital.
Attends, on va
non,
écouter
problème,
Guillaume.
Le parking, c'est que c'est double peine.
Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue, Guillaume de Pessac, en Gironde. Qu'en dites-vous, alors?
Bah déjà, bonjour, Laura. On était ensemble sur le plateau du forum lundi.
D'accord.
Oh, d'accord.
C'est qui? Alors, j'ai pas entendu le prénom.
Guillaume.
Oui.
Alors, ensuite toi derrière.
Ça reste en famille.
Ben bonjour à tous aussi. Je vous adore tous. Là, j'ai les bonnes GG. Mais alors, je suis d'accord avec Laura 100%. 2023. Je vous juste rapidement mon histoire. 2023-2024, cancer ORL. Plutôt chaud. Chaud patate. Donc 36 séances de rayon de la chimio. Donc aucune ambulance n'a voulu m'amener à l'hôpital pour les rayons parce que trop près de chez moi, paradoxalement. Donc personne n'a voulu. Donc c'est ma femme qui s'est tapée les 36 séances de rayons pour m'amener La chimio, pareil pour y aller. Pour revenir, bah là ils étaient obligés parce que j'étais dans un tel état que j'avais l'ambulance qui revenait.
Et pour revenir au parking gratuit, donc ça c'était juste pour la phase, oui, les ALD, il y en a 12 millions, ils peuvent avoir des bons de transport et tout, c'est pas si simple, déjà, et d'une. Deux, moi j'allais sur 3 hôpitaux, que ce soit pour l'oncologie, l'ORL ou la radiothérapie. Sur les 3 hôpitaux, il y a le CHU de Bordeaux, qui est un immense parking, énorme parking, bien payant quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnels de santé ont des places réservées, entre guillemets, avec leur badge, où ils peuvent rentrer avec le badge. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
On voit.
Allô?
Oui, oui, on vous écoute. Allez, vous écoute,
ils payent pas. Et pour le reste, moi, je reste persuadé, une gratuité sur une durée limitée, ça peut le faire, avec toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, que ce soit des applis, ils savent nous envoyer des SMS quand il faut aller, pour pas louper le rendez-vous, etc., etc.
Avec les plaques d'immatriculation même, avec les plaques d'immatriculation, avec lecture de plaques. Mais attendez, Guillaume, pardon, excusez-moi, je vous interromps parce qu'on a Antonio qui veut réagir. Antonio, bonjour.
Bonjour.
Vous avez entendu ce que disait Guillaume, il explique qu'aujourd'hui, oui, avec les nouvelles technologies, on doit pouvoir arriver à moduler. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Antonio?
Ben, j'en dis qu'il a totalement raison, parce que, comment dirais-je, moi je vais vous parler d'un cas particulier. À l'hôpital Jeanne de Flandre sur Lille, vous payez votre parking et vous n'insérez pas votre ticket pour sortir du parking puisqu'on lit votre plaque. Et donc ça existe, voilà, déjà. Donc quand on est parent, et moi je me place en tant que parent et non pas en tant que patient, puisque mon fils a eu un cancer, il en est décédé en 2024, il avait 20 ans. Tout à l'heure j'entendais Charles qui disait, oui, il y a les bons de transport, machin. Oui, c'est vrai, ça existe, ça existe. Lui, il avait l'envie de venir à l'hôpital avec sa voiture quand il le pouvait, soit il se faisait accompagner par sa copine, par un copain, ou c'était lui, oui, qui avait possibilité de le faire. Et effectivement, on a pu se faire rembourser, en tout cas on a pu faire la demande pour le bon de transport. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une petite prise de sang, un petit truc, même quand vous êtes en ALD, eh ben, on vous retient de l'argent. Et à un moment donné, on vous dit, ah oui, on vous devait 560 euros. Ah ben, désolé, en fait, parce qu'avec tous les petits trucs qu'on vous a repris à côté, ben, c'est limite vous qui devez de l'argent, en fait, au système.
Oui, mais pardon, mais les soins, enfin,
les soins sont pris en charge.
Non, mais non, pas tous les pris en charge, mais vous vous rendez pas compte le coût de la santé. En fait, on ne paye jamais coût de la santé. On ne paye jamais le réel coût des examens que nous faisons à l'hôpital ou ailleurs.
Comme on ne paye pas le réel coût d'une retraite, comme on ne paye pas le réel coût de son chômage. Ça veut dire quoi?
Bah oui, donc ça veut dire que tous ces systèmes sont déficitaires.
Les hôpitaux sont déficitaires. Et c'est quand même bizarre que les hôpitaux soient déficitaires depuis qu'ils sont gérés par justement des gestionnaires et non plus des médecins. Là aussi, il faudrait se poser peut-être aussi des bonnes questions.
Mais non, mais ils sont déficitaires parce qu'on est dans un pays qui vieillit, parce que ça coûte de plus en plus cher de soigner les gens, parce que les traitements sont de plus en plus performants, mais de plus en plus coûteux. Et oui, d'accord, et qu'on est de plus en plus nombreux, et que malheureusement, on n'est peut-être pas assez nombreux à travailler, donc à cotiser, parce que quand on vous dit ce matin que le chômage augmente, ben ça fait des cotisations en moins. Tout est lié.
Vous comprenez aujourd'hui qui est bancal.
Le système qu'on a est très généreux, mais on ne le finance plus. C'est ça le problème.
Allez-y, Antonio, pardon.
Mais si, il est plus généreux que n'importe quel autre système au monde. Oui, mais c'est vrai qu'en France, monsieur, comme on l'a connu que ça, on a l'impression que c'est
oui, la. Oui, mais vous avez raison, Antonio, mais peut-être qu'on ne paye pas suffisamment.
Je suis désolé, il n'y a pas de question de générosité. Moi, comme mon gamin.
On paye, mais on ne paye pas le vrai prix.
Allez-y.
C'est dur à dire, mais c'est vrai. Qui aujourd'hui font une grève de moelle osseuse pour leurs enfants parce qu'ils ont des leucémies et qu'ils sont en chambre stérile pendant 2 mois et que pendant 2 mois, l'un des deux parents est obligé de payer tous les jours son parking pour visiter son gamin. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est normal?
Non, c'est terrible. Mais vous savez combien ça coûte d'hospitaliser pendant 2 mois? C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Après, Antonio, on doit pouvoir arriver dans ces cas-là, quand on sait qu'il y a des affections longue durée, à faire des forfaits, à moduler, vous voyez. Mais si déjà on manque de place de parking.
Moi, je vais vous dire, moi, je serais favorable à qu'on donne à chaque Français la facture de ses soins. Voilà. Ça a coûté ça. C'est pas ce que vous payerez, puisque grâce à notre système, vous ne payerez pas ça. Mais rendez-vous compte combien ça coûte d'avoir des médecins, et on a des très bons médecins, d'avoir toute une infrastructure.
Après, il ne faut pas tomber dans le système américain non plus.
Mais non, tu montes la facture. Le système américain, ce n'est pas ça. Le système américain, tu payes une assurance privée, c'est autre chose.
Ça, je suis d'accord.
Je veux simplement te dire, tu vois, moi, j'ai un copain qui est resté hospitalisé 3 semaines aux États-Unis pour un AVC. Heureusement qu'il avait une assurance privée. Tu sais combien normalement c'était la note? 420 000 euros. 420 000 dollars.
Mais la note serait pareille en France.
Mais pareil.
Mais non, mais
viens de dire, c'est, ça ouais. serait pareil en France, sauf que notre système prend en charge.
Ouais, mais moi, je suis d'accord avec,
je suis d'accord avec ça.
Si mais en face, on a le détail réel de ce que, comment, de ce que l'État a collecté comme argent et où il l'a dépensé.
Parce que même avec une assurance privée, ça coûte très, très cher. Il faut avoir
mais
une
en France, ça coûterait aussi cher, sauf que les gens ne se rendent pas compte.
Alors, parking, je remercie Antonio et Guillaume d'avoir été avec nous. Parking gratuit, oui ou non, fausse bonne idée. Vous dites non. Je suis alors un peu.
C'est
non à 60%.
Idée.
Donc alors, c'est plutôt une bonne idée. Well. La manière dont vous avez tourné la question, les gars, allez tous virer. Hop, dehors.
Donc, en gros, les gens veulent des parkings gratuits.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
La radicalisation masculiniste peut devenir une menace pour la sécurité publique. Il peut y avoir une forme de radicalisation du sexisme qui amène à un passage à l'acte et également à banaliser les violences les plus extrêmes jusqu'à l'apologie du viol ou du meurtre. Il y a différents types de masculinistes et il y a en effet des radicaux qui eux sont plutôt croyants, proches de l'extrême droite, qui vont prôner un retour aux valeurs anciennes et considérer que du coup la crise du masculinisme est due à la modernité. Alors que il y a d'autres formes, notamment les plus radicaux, qui sont plutôt les incels, ce qu'on appelle les célibataires involontaires, c'est-à-dire qui considèrent être célibataires parce que les femmes ne veulent pas d'eux et ils développent une haine très forte envers les femmes.
Voilà Madame Bérangère Couillard qui est à la tête du Haut Conseil à l'égalité homme-femme.
Oui, ce Haut Conseil avait été créé en 2013 par François Hollande et la première présidente c'était Najat Vallaud-Belkacem. De Bérangère Couillard qui a été ministre se retrouve donc à la tête de ce Haut Conseil qui nous apprend que 10 millions de personnes, ce n'est pas rien, peuvent s'inscrire dans une idéologie masculiniste. Alors ça c'est un nouveau terme qui est apparu récemment. Alors une idéologie qui est nourrie par le sentiment que la place des hommes serait menacée par les féministes. En fait, ils ont interrogé des hommes et notamment sur la place des féministes. Et certains hommes disent bah, peut-être que ce féminisme peut menacer la place des hommes dans la société. Et du coup, les gens qui disent ça sont rangés dans la catégorie sexiste, masculiniste. Alors ça va même plus loin parce que maintenant on parle de sexisme radical qui peut devenir une menace pour la sécurité publique. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a un peu d'amalgame. C'est-à-dire qu'on mélange à la fois les gens qui sont des violeurs, des gens qui vont battre leurs femmes, parce que malheureusement les violences c'est essentiellement au sein du couple hein, battre leurs femmes. Il y a aussi ceux qui sont dans une idéologie religieuse très forte et qui entraîne à penser que l'homme est supérieur à la femme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui pensent ça? Non. Donc là, est-ce qu'on mélange pas un peu tout pour faire peur et utiliser des termes comme sexisme radical, idéologie masculiniste, ce que disait Bérangère Couillard ce matin chez Apolline sur AMC?
Est-ce que tu te sens visé, Antoine Dior, ça?
Je me sens un peu visé, alors même que moi je suis un gentil garçon, bien élevé par sa maman, totalement respectueux des femmes, mais quand je prends le rapport, je me dis pourquoi j'ai l'impression d'être visé. Il faut regarder ce rapport, je suis allé le voir, je suis allé le lire. Déjà tu as une du rapport officiel, hein, avec le petit truc République française en haut, une entièrement réalisée à l'IA. Avec un homme qui montre des muscles, un logo féminin barré, etc. Ça fait pas hyper crédible pour une agence d'État, pour un haut conseil d'État. Et puis ensuite, tu ouvres l'introduction et tu tombes en page 8. Donc dès l'introduction, très vite, tu tombes sur cette citation. « Le masculinisme apparaît comme un élément central d'un mouvement réactionnaire international et représente une menace pour l'égalité et la justice sociale. » Et là, tu te dis... Ah ok, j'ai très vite compris, c'est rédigé par des militants, des militantes. Et donc en réalité, ce Haut Conseil, qui a une mission tout à fait juste, est entièrement pris en main par les militantes, les gens qui exagèrent, qui ont une idéologie derrière, et donc le truc passe complètement à côté de son objet. Et il passe notamment à côté de son objet sur un point qui me paraît essentiel, c'est que il dit, en page 15, les profils sexistes paternalistes recouvrent les milieux conservateurs ou religieux. Ah, c'est évoqué quelques fois dans le rapport, ou religieux. Mais on n'évoque jamais les religions concernées. Il n'y a pas le mot islam une fois.
Bah, pourquoi c'est l'islam? Voilà, sur ce sujet-là, on écoute les religions.
Nous, eh ben non, d'après moi, il y a une religion où la place de la femme est particulièrement délicate, avec des passages du Coran particulièrement difficiles à comprendre aujourd'hui dans une relation égalitaire. Mais non, la Bible, c'est assez clair. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La place de Marie dans la religion catholique. Bref, je pense que ce rapport passe totalement à côté, qu'il est militant et que précisément, il participe participe aujourd'hui de cette ambiance où hommes et femmes ne parviennent plus à se parler parce que les hommes sont devenus suspects par essence. Et ça s'appelle l'essentialisation qu'on reproche partout ailleurs. Non, tous les hommes sont pas violents et les hommes respectent les femmes dans leur immense majorité.
C'est ce que dit ce rapport, je te pointe. Il pointe juste des dérives. C'est ça.
Il fait un peu d'essentialisation.
Si tu vois, Instagram d'ailleurs, il y a cette tendance aujourd'hui qui est très affirmé du masculinisme, de retrouver des valeurs viriles, etc. Ça se voit sur Instagram.
Masculinisme, retrouver des valeurs viriles, ça veut pas forcément dire détester les femmes. Tu vois, déjà là, t'as fait un petit glissement.
Non,
son côté Bérangère Couillard, Marshall.
J'oserais pas dire ça.
Bérangère surtout. Vas-y, Fatima.
Le problème
très jolie
avec
femme, d'ailleurs.
J'étais sûr. Mais ça, tu as provoqué, c'est la totalement glissade. Sexiste.
Non, ce que
tu es vraiment un masculiniste radical.
Ce qui est sexiste, c'est de me couper la parole. Ce genre. Eh oui.
En prison. Non, attaque ce sexiste.
Genre... Merci. Je vais y aller. Ce genre de. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce genre de question-là, les Français sont-ils sexistes? C'est la machine à buzz. Ça veut dire, je le donne en mille, on pose cette question, on la donne aux gens, et les gens se disputent en dessous.
C'est peut-être ce
rapport chacun va dire, non, moi je le suis pas, c'est pas tous les mecs, et puis là, les gens vont répondre, mais si, nanana. Et à la fin, on n'a pas du tout parlé du sujet, et on n'a pas avancé. Donc moi, le côté machine à buzz, à la place d'avoir une machine à régler les sujets, c'est ce que j'attends d'un, c'est ce que j'attendrai politiquement.
Ah oui.
Ça veut dire que les militantes militent, c'est une chose, que les militantes essayent de comprendre les mécanismes, voient le continuum, ok, mais le truc, c'est quand on arrive à un niveau politique, on essaye d'être efficace. Et pour être efficace, c'est comme l'Espagne qui va cibler, qui va dire, voilà, les violences sexistes, les meurtres, les femmes qui meurent. Là, on compte à chaque fois depuis le début de l'année. On a des centaines de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Ça existe. C'est des chiffres. Qu'est-ce qu'on fait? Comme en Espagne, voilà, on fait ça, on propose ça, très concret. C'est là qu'on va lutter plutôt que finalement débattre. Après, on aime bien débattre en France, donc on peut débattre mille ans, mais j'ai l'impression déjà qu'on n'est pas des mêmes choses. Là, on nous sort encore un autre mot, le sexisme radical, le masculinisme, les incels. La moitié des gens ne comprennent pas, donc on est en train de débattre alors que les gens ne comprennent pas le vocabulaire employé. Moi, je veux bien qu'on soit shadok même sur ces sujets-là, mais c'est des sujets graves. Et pendant ce temps-là, il y a des femmes qui meurent, et on va
C'est ça le vrai sujet.
Voilà, et on va caricaturer ce sujet-là.
Oui, mais ce rapport à ce qui ne mélange pas tout justement, et oublie peut-être de cibler vraiment le danger que peut représenter des hommes violents qui sont prêts à taper, violer.
Ils veulent montrer le continuum. C'est-à-dire, c'est un peu comme il y avait cette série là qui a marché, c'est Adolescence. Vous vous rappelez, Adolescence, ça a marché. On nous a même dit, il faut le montrer dans les écoles. Moi, je suis contre montrer Adolescence. Déjà, c'est une série. Où est-ce qu'on prend le temps? En plus, le côté, il n'y a rien de plus qui se périme aussi vite qu'une série. Et donc,
il n'y a pas d'enseignement.
Et en plus, il faudrait vraiment accompagner.
Attends, je voudrais qu'on écoute Arnaud avant de donner la parole. Bruno Arnaud, qui est créateur de contenu, qui est dans le Val-de-Marne. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour tout le monde.
Est-ce que vous pouvez vous reconnaître, vous, dans la description qui est faite aujourd'hui du sexisme, du masculinisme, du virilisme ou pas? Dites-moi.
Pas du tout, parce que pour moi, le masculinisme, c'est des hommes qui donnent des conseils à d'autres hommes qui en ont besoin.
Par exemple?
Comme, par exemple, je sais pas, après une rupture, ne pas rester dans sa chambre à pleurer, après une rupture avec une femme, mais par contre, aller faire du sport, aller s'occuper, aller voir ses amis, passer du temps, faire des heures supplémentaires au travail. Pour s'occuper l'esprit, pour oublier la déception amoureuse. Ça, c'est le genre de conseil que les ce qu'on appelle masculiniste. Mais de base, ça s'appelle pas comme ça. C'est juste des coachs, j'ai envie de dire. On donne ce genre de conseil pour que les hommes se lèvent et n'aient pas ne restent pas en dépression.
Voilà, une réhabilitation de la virilité, au bon sens du terme. La virilité peut être positive.
C'est quoi la virilité positive?
Arnaud, vous êtes créateur de contenu. Quel c'est type ça. De contenu vous faites?
Justement, je fais du contenu relation homme-femme.
Oui, voilà.
Voilà, parce que moi, par rapport à mon vécu, c'est ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Je me suis dit, mais non, j'étais le seul. Je pensais être le seul à avoir, après une séparation, souffrir, voilà, je vois plus ma fille, etc. Et je me suis dit, je suis seul. Mais quand je suis tombé sur des vidéos américaines, je me suis dit, non, je suis pas tout seul.
Mais vous ne poussez pas à détester les femmes, à faire des femmes des ennemis.
Non, le problème, c'est que quand les hommes de nos jours, on conseille d'autres hommes pour éviter les problèmes dans les relations femmes ou
par exemple, quel bon conseil vous donnez à un homme dans sa future relation homme-femme après avoir eu un échec?
De prendre son temps, de ne pas aller vite, de ne pas forcément comment dire, accepter, enfin aller vers toutes les femmes, essayer de draguer toutes les femmes, non, prendre du temps pour soi, réfléchir, s'améliorer déjà personnellement, voilà, développement personnel, on était pour le Covid, on parlait que
donc ça ça c'est pas du masculinisme.
Mais dans... pour moi non, mais maintenant, malheureusement les
c'est
les
des conseils pas... des hommes à des hommes quoi.
Les Français sont-ils de... Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Les Français sont-ils sexistes, oui ou non? Est-ce qu'ils le sont devenus, sexistes, masculinistes? Non, 80%.
RMC 9h midi. Le meilleur des grandes gueules.